carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
De Miro à Warhol, au musée du Luxembourg. Le musée du Luxembourg fait une nouvelle fois honneur à sa prestigieuse histoire de musée français des artistes vivants. De 1818 à 1937, il fut de fait le premier musée d'art moderne. Il a toujours conservé depuis l'ambition d'offrir au public le meilleur des créations contemporaines. Ce musée parisien, situé dans l'enceinte du Palais du Luxembourg et placé sous la responsabilité du Sénat de la République française, nous présente cette fois l'une des plus importantes collections privées d'art moderne, la collection Berardo du Portugal. Déjà, le titre de l'exposition de Miro à Warhol nous promet des chefs-d'œuvre. José Berardo, l'un des plus puissants entrepreneurs portugais, a réuni plus de 800 œuvres depuis les prémices du surréalisme à l'explosion du pop art et au-delà jusqu'aux plus récentes. La plupart des grands courants du dernier siècle y figurent, et de ce trésor pictural, le musée du Luxembourg présente une soixantaine d'œuvres. Le commissaire de l'exposition, André Cariou, s'est spécialement déplacé jusqu'au studio de Canal Académie pour nous entretenir de cet événement. André Cariou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu de Bretagne, puisque vous êtes directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper. Vous êtes également conservateur en chef du patrimoine et un spécialiste reconnu de la peinture du XXe siècle. Alors un mot peut-être tout d'abord, une impression d'ensemble sur cette collection Berardo, dont vous a confié le soin de la mettre en valeur. Quelle période recouvre-t-elle dans l'histoire de la peinture récente?
Alors, au départ, José Berardo, lorsqu'il a voulu constituer sa collection, s'est dit qu'il ne se consacrerait qu'à la deuxième moitié du XXe siècle, surtout après l'année 45, et puis il voulait évoquer les différentes confrontations entre le Nouveau Monde, l'Ancien Monde, entre les différents courants des avant-gardes, et finalement, progressivement, il remontait en arrière pour des raisons à la fois de compréhension, c'est-à-dire il est difficile de parler de l'abstraction des années 50 sans remonter un peu en arrière, et aussi pour des raisons d'opportunité du marché, c'est-à-dire il a commencé à acheter en 1992, et à ce moment-là, il y avait une sorte de décrue du marché assez importante, et donc il a été poussé par ses conseillers à acheter les œuvres de l'entre-deux-guerres, et donc progressivement, sa collection s'est étendue, donc en particulier à propos du surréalisme et de l'abstraction, donc entre les années 20 jusqu'aux années 30. Et puis finalement, sa collection s'est amarrée à un petit Picasso modeste de 1909, mais modeste en taille, mais très intéressant parce que c'est le début du cubisme cézannien, c'est les premières œuvres où Picasso met à mal tout le système perspectif de la Renaissance, mais aussi le système qui, à partir de volumes, respecte le corps humain, les proportions, la situation de l'homme dans le pays, dans son cas, dans le paysage, etc. Et donc Picasso, pour la première fois, par des aplats, par des coupures, par des rejets dans le cadre, met à mal ce système. Et finalement, je dirais un bon départ pour illustrer tout ce qui va se passer dans le XXe siècle.
C'est absolument superbe, c'est très fin et délicat, et vraiment, c'est un des chefs-d'œuvre de cette
bien modeste,
collection.
Mais chef-d'œuvre.
Oui, oui. Et puis donc, le visiteur est tout de suite vraiment saisi par l'exceptionnelle qualité de la sélection et celle des artistes aussi bien que des œuvres. Et on imagine aussi qu'il n'a pas été simple pour vous d'opérer une sélection parmi les différents courants, les tendances et leurs représentants artistiques, justement. Alors, que pouvez-vous nous en dire?
Oh, c'était difficile parce que la collection de Berardo s'est faite, donc, on va dire, d'une manière brutale. Il a décidé en 92. Il a acheté pratiquement un tableau tous les 4 jours. Enfin, il a acheté 90 tableaux par an. Au bout de 6 années, en 1998, il avait presque 500 peintures et il ne revend jamais, contrairement à la plupart des collectionneurs qui cherchent à améliorer et qui écrèment, qui revendent pour acheter des œuvres majeures, etc. Lui, il achète au fur et à mesure. Finalement, il voit très peu ses œuvres parce que, en fait, ses œuvres n'acquièrent jamais finalement le statut de collection privée parce que je lui ai demandé ce qu'il avait eu dans sa chambre. C'est souvent un critère dans sa salle à manger, dans sa sa maison, ses résidences secondaires, quel tableau, parce qu'on vit avec la peinture. Et lui, en fait, dès le départ, en 92, et surtout en 98, lorsqu'il commence à exposer dans l'ancien casino de Sintra, qui est une petite ville au-dessus de Lisbonne, qui a été transformée en musée d'art moderne, dès le départ, il se dit que ça va être une collection publique, que cet ensemble va être une collection publique. Et donc, l'un des principes de cette accumulation qui est de caractère presque boulimique. Berardo, on va dire, c'est un collectionneur de collections. C'est-à-dire, il collectionne depuis qu'il est enfant et c'est tout à fait impressionnant parce qu'il a conservé encore les collections depuis oui. qu'il est né. Donc, il collectionne autant le mobilier art déco que les affiches de cinéma, les céramiques, les crucifix en ivoire, etc. Les timbres, les allumettes, etc. Et donc, ce collectionneur n'achète en général qu'une œuvre par artiste. Donc ça veut dire 900 peintures, ça veut dire 900 artistes, sauf exception. Il y a 3 Warhol dans la collection, il y a 3 Ernst, etc., etc. Et donc, sauf exception. Et donc, je me suis trouvé confronté à pratiquement 900 artistes, et dont beaucoup sont évidemment très très intéressants, mais aussi beaucoup de méconnus ou peu connus. Et il a fallu donc trouver une articulation, trouver des relations dans tout ça. Et pour un espace qui est assez limité, parce que le musée de Luxembourg peut présenter 75 peintures, mais guère plus. Et donc, je n'ai pas pu m'aider de la chronologie, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus signifiant qu'un Miro soit acheté en 95 ou en 96? En fait, ça ne dit rien, parce que vraiment, Berardo suit le marché. Et donc, je me suis aidé, en fait, pour sélectionner, évidemment, des grands noms. Il est plus intéressant de présenter des noms connus, mais je n'ai pas systématiquement, je ne me suis pas plié à cette obligation. Par exemple, il y a un Dali qui est assez secondaire, une peinture assez secondaire que je n'ai pas pris malgré le nom de Dali.
Il y a un téléphone de Dali qui est extrêmement intéressant,
qui est un vrai téléphone qui a servi en tant que tel, oui. C'est pas une copie du tout. Mais par exemple, j'ai renoncé à une sculpture de Ernst parce que c'est un tirage postérieur à la mort de l'artiste, etc. Et donc, mon souci était plutôt de comprendre le collectionneur qui n'est pas un historien de l'art, hein, qui ne cède pas du tout, qui ne base pas ses choix sur l'histoire de l'art. Et donc, j'ai essayé de le comprendre. Et il emploie souvent dans les interviews le mot confrontation. C'est vraiment le mot qu'il emploie le plus. Alors, j'ai essayé de confronter les choses parce que essayer de voir comment on pouvait finalement, comment pouvait réagir un collectionneur privé en faisant cohabiter des œuvres différentes. Et puis aussi, il y a un souci, un mot qu'il emploie souvent, c'est le mot didactisme, didactique, pédagogique, etc. C'est quelqu'un qui, dès le départ, comme je l'ai dit, avait le souci d'une collection publique et c'est une sorte de revanche un peu sur l'histoire. Il a quitté l'école à 13 ans, il n'a aucune éducation, aucune base. Sa famille était extrêmement modeste, enfant d'une famille de 7, à Madère, très isolé, partant à 18 ans travailler au Mozambique, comme beaucoup de gens de Madère, très pauvres, dans les colonies africaines portugaises, donc Mozambique ou l'Angola, etc. Lui, le Mozambique, et ensuite l'Afrique du Sud, souvent c'était aussi le cheminement de ces gens en quête de travail. Et il a fait fortune là-bas. Et donc, il a décidé...
Et c'est quelle fortune !
Une grande fortune.
Il est tombé sur une mine d'or.
Il a travaillé dans l'or. Il a beaucoup, je crois, aussi beaucoup travaillé. Puis aussi beaucoup de qualités, de flair. Des qualités, finalement.
C'est un homme d'affaires très avisé, on peut dire. Oui.
Et donc, il aurait pu acheter aussi des paquebots de luxe. Il aurait pu acheter des voitures de course. Enfin, il a acheté de la peinture alors qu'il n'avait aucune culture. Et il a souhaité qu'elle soit mise à disposition du peuple portugais. Qui, il faut se le rappeler, pendant les 48 ans du régime de Salazar, était complètement coupé du monde, coupé même de l'Europe. Et il a découvert en s'établissant au Portugal en 90 que finalement il n'y avait pas une seule collection d'art moderne, il n'y avait pas un Picasso, il n'y avait pas un tableau cubiste, il n'y avait rien. Et donc c'est une sorte de revanche de l'histoire. Et il est très heureux quand on lui dit que sur les 500 000 visiteurs qui ont visité le musée, la collection Berardo à Lisbonne, qui est ouvert depuis un an, qu'il y a beaucoup, beaucoup de scolaires. Et pour lui, c'est une sorte de revanche. C'est-à-dire, il veut mettre à disposition du peuple portugais, de ses compatriotes, cette collection pour que le Portugal sorte un peu plus de son isolement.
Et qu'il devient maintenant une attraction internationale.
Oui, parce que cette collection est exposée au Centre culturel de Belém, qui est situé entre le monastère des Hieronymos et la tour de Belém, et à l'entrée du Tage, à l'embouchure du Tage. Et donc c'est une collection qui a une grande importance. Oui. Pour le Portugal.
Et dans une construction vraiment imposante. C'est quoi cette...
C'est un centre culturel qui a été construit il y a 20 ans pour abriter une salle de spectacle, d'opéra, de salle de congrès et autres, et qui disposait de très grands espaces d'exposition, et finalement, mais qui était, par manque de collections modernes, qui était un peu vide. Et donc, José Berardo a réussi à décider le gouvernement portugais de conclure un accord, c'est un peu comme pour la famille Thyssen et le gouvernement espagnol, c'est un accord de 10 années. et pendant 10 années, donc il a mis à disposition de la collection, l'État portugais met à disposition le bâtiment et le fonctionnement,
oui.
Et au bout de 10 années, l'État portugais peut acheter la collection pour un prix qui est un peu, on ne va pas dire symbolique, parce qu'il y a quelques millions, mais quelques centaines de millions, mais c'est un prix qui est relativement bas.
Oui. Bon, mais écoutez, passons maintenant donc à l'exposition à Paris. Et si vous voulez bien, on peut retrouver salle après salle les différents mouvements artistiques. Mais l'exposition s'ouvre d'abord sur une confrontation. Comme vous venez de dire, José Berardo aimait beaucoup cette notion de confrontation. Et la première salle, justement, offre cette confrontation entre des œuvres très diverses, un éclectisme surtout inspiré par des coups de cœur du collectionneur. Et qui évoque, je pense, vraiment l'esprit de cette exposition, enfin de cette collection. Et dès l'entrée, on se trouve devant un magnifique paysage de Nicolas de Staël. Et je dois dire, c'est un de mes coups de cœur à moi, si je peux vous le confier. Et donc, dans cette salle aussi, on trouve le Picasso dont vous avez parlé tout à l'heure, un Pollock, un Francis Gruber, qui est moins connu, mais qui est assez impressionnant aussi par cet aspect angoissant. Donc, je vous laisse le soin de nous le décrire.
Oui. J'ai voulu évoquer finalement aussi l'esprit d'une collection privée. Quand, chez soi, quand on accroche, on ne va pas placer le Ernst à gauche du Miro, lorsqu'on a la chance d'avoir Ernst et Miro, sous prétexte qu'il est plus ancien et autre. En fait, on accroche un peu suivant ses coups de cœur, suivant les formats. Et la collection Berardo, finalement, à la différence d'une collection publique comme celle du Musée national d'art moderne, où chaque, on va dire, séquence est bien calibrée, bien lissée, on sait qu'il faut 10 clés par rapport à 5 Kandinsky ou 7 Malevitch. Tout est très, très réfléchi. Au contraire, dans une collection privée et surtout comme ça, qui s'est accumulée, constituée un peu brutalement, rapidement et sans grande stratégie, il y a des grandes surprises. Et pour moi, les surprises permettent de dérouter un peu le visiteur et de l'obliger à reconsidérer des relations. C'est-à-dire que les relations habituelles, et par exemple pour De Staël, on aurait tendance à dire De Staël, c'est un peintre abstrait. Or, en fait, c'est un peintre qui commence à travailler sur le motif comme un tout paysagiste, et puis ensuite il a une période plus, on va dire, plus conceptuelle, plus intellectuelle, où il travaille en atelier, où il est arrivé à des formes de disposition de couleurs pures ou de composition qui soignaient la réalité. Et puis à un moment, n'en pouvant plus, parce que c'est une démarche très, très difficile, très solitaire et autre, il a eu besoin de retourner sur le motif, de prendre son chevalet, d'aller dans la campagne, etc. etc. Et le tableau que nous présentons est à mi-chemin, c'est-à-dire il est revenu au sujet. On peut connaître un paysage dans ce tableau si on veut, mais on voit que le peintre finalement fait son profit de cette relation avec la nature pour en faire une composition et qu'on peut la qualifier d'abstraite. Ce qui montre aux visiteurs que diviser ou séparer ou opposer abstraction, figuration, c'est totalement absurde. C'est-à-dire le peintre est confronté simplement à des effets atmosphériques, à des effets de couleurs, à une composition de la nature, à de l'espace, etc. Et il restitue son appréhension ou sa perception de ce paysage, mais ce qui n'est pas, il ne copie pas le paysage. Et en fait, ce que je veux dire aux visiteurs, c'est surtout ne mettez pas d'étiquettes sur les œuvres. J'ai placé volontairement côte à côte un nu de Gruber qui exprime le désarroi de l'occupation, très triste, très
oui,
décharné,
etc. Tableau de 1944, je me souviens.
Et à côté, un nu de Leroy. Et si on présentait seulement le nu de Leroy, qui est un tableau contemporain des années 80, si on présentait seulement le tableau de Leroy, on dirait que c'est la peinture abstraite, etc. Or, finalement, la relation entre les deux fait qu'on commence doucement à distinguer chez Leroy les formes d'une femme nue. Et le titre aussi invite le spectateur, le visiteur à découvrir. Et en fait, on voit que finalement, ces deux œuvres participent de la même démarche, c'est-à-dire c'est un des thèmes éternels de la peinture, quelles que soient les formes et autres, c'est le traitement du nu, en partie du nu féminin, et donc ça permet de jeter des ponts comme ça entre différentes périodes. De la même façon, j'ai voulu opposer ou relier un portrait de bourgeoise des années 30 par Balthus, la femme d'un sous-préfet, et très étrange, avec aussi des sortes de déformations, à la fois d'attitude et aussi de disproportion de la tête, et puis à côté de lui, mais pas en relation directe, mais à côté, une sorte de cri de révolte de Karel Appel, qui est un peintre hollandais juste après-guerre. Et ces peintres, cette génération de peintres qu'on a regroupés sous le nom de Cobra, hurlaient en utilisant des dessins d'enfants ou les productions des aliénés, des fous. Et ils hurlaient contre cette génération des années 30 qui avait permis la guerre et le cataclysme. Et donc, ils mettaient en cause violemment cette génération à travers toute l'Europe, y compris en France ou ailleurs, qui avait permis cela. Et donc, je voulais un peu violenter en même temps l'intérêt d'une telle collection et cette première salle Le Monde, c'est qu'il y a des artistes qui sont souvent moins connus comme, ou un peu démodés, comme Gruber. Il y aura bientôt une exposition au Musée des Beaux-Arts de Nancy, mais il est un peu moins connu.
Oui.
Mais aussi Germaine Richier, qui est certainement l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, mais qui est aussi un peu méconnu.
Et donc, une magnifique sculpture.
Très, très agressive aussi. Et on retrouve, faite aussi pendant la guerre, quand elle s'est réfugiée en Suisse parce que son mari était suisse et qu'elle a totalement évolué, trouvant des nouveaux thèmes à mi-chemin entre l'animal et l'homme, une sorte de personnage hybride, très agressif. Et finalement, à côté d'elle, il y a un tableau de Jorn, qui est un peintre aussi, qui crie son désespoir et à travers le même type de masque, de monstre et autres. Et donc, c'est une collection privée avec ses contradictions, c'est-à-dire des choses très calmes. Pourquoi j'ai mis le Picasso à côté du Pollock? Parce que le Pollock ressemble vraiment à Minotaure. Et quand on sait que Pollock adorait totalement Picasso, pour lui, c'était le plus grand des plus grands, et que Picasso, c'était pas simplement le Minotaure, les Demoiselles d'Avignon, mais c'est aussi un personnage en tant que tel. Et quand on sait que Jorn servait à travailler au moment de la construction du pavillon de la République espagnole en 37, où Picasso a apporté Guernica et de même Mata, et on s'aperçoit que l'histoire de l'art, et cette salle essaye de le montrer, est faite en fait de relations entre les gens, de sensibilité devant des événements comme la guerre, de thèmes qui sont toujours éternels et avec des approches stylistiques différentes. Et donc c'est un peu l'esprit d'une collection, parce que quand on commence une collection, on n'a pas vraiment de stratégie. Et cette stratégie, on la découvre plus dans les salles suivantes, dont le surréalisme.
Oui. Et puis, on découvre dans cette première salle un peintre portugais qui est très peu connu, ici en tout cas, Amadeo de Sousa Cardoso, qui est magnifique dans sa composition de couleurs et de structures géométriques aussi.
Alors José Berardo ne fait pas la part belle spécialement aux peintres portugais, même si maintenant pour la partie contemporaine il achète beaucoup de jeunes artistes, mais il y a quelques œuvres, j'ai tenu à ce qu'il y ait quelques œuvres, dont ce Amadeo de Sousa Cardoso, très très peu connu. Il est mort en fait très jeune, en 18, hein, la grippe espagnole, et il a été une des figures, je ne dis pas importante ou marquante, mais un artiste extrêmement estimé du Montparnasse des années 1908-1914. Il a été pendant 6 ou 8 ans à Paris, participant à toute cette évolution, ces contacts entre les artistes, la naissance de l'abstraction. Et ensuite, il s'est réfugié dans son pays en 1914 à la guerre, et il est mort en 18, tout en fréquentant Robert Sonia Delaunay, qui s'était réfugié au Portugal et aussi contribuant à ce développement, à cette propagation de l'abstraction. C'est un peintre très rare. Il y a peu d'œuvres, à part la collection Gulbenkian à Lisbonne. Il y en a très très peu. Et là, c'est une œuvre, ce sont deux œuvres qui sont pour l'une encore figuratives, mais très simplifiées. On distingue le bleu de l'eau, le beige de la pierre du pont, et puis le vert de la végétation, mais seulement trois couleurs. Et puis à côté de ça, une autre œuvre où il s'agit simplement de verticales, d'horizontales et de taches de couleurs. Et donc, on voit que le peintre glisse vers l'abstraction. Et je pense qu'il fallait lui, à travers ces deux œuvres modestes, il fallait lui rendre hommage.
Oui, une vraie belle découverte, ce peintre portugais Sousa Cardoso. Écoutez, je vous propose une courte pause musicale avant de passer à la deuxième salle, qui est vraiment presque le centre de cette exposition, le surréalisme. Et pour bien rester dans l'esprit des modernes, nous allons écouter du Arnold Schönberg avec Glenn Gould au piano. Thank you. Donc, en compagnie d'André Cariou, le commissaire de l'exposition de Miro à Warhol au musée du Luxembourg, nous continuons donc la visite de cette exposition et nous passons dans la deuxième salle qui est dédiée au surréalisme. C'est vraiment, je pense, un des points forts de la collection et de l'exposition qui est commencé un prolongement du mouvement Dada. Et vous accordez une place vraiment importante au surréalisme. Et vous-même, comment pouvez-vous le situer, André Cariou, dans l'histoire de la peinture ou de la poésie ou de la création onirique, disons en général?
Cette collection est certainement l'une des plus importantes à travers le monde et elle est très cohérente et très complète. Les choix donc sont vont très bons. Il y a un seul Magritte mais de très grande qualité, un seul Pierrot, un seul Vifré d'Olam, etc. Et elle commence en fait par trois œuvres d'Ernst, deux d'Ernst et une de Miro des années 23-25 où on voit que finalement les plasticiens commencent à intégrer le groupe. Il faut se souvenir que ce groupe de surréalistes c'était au départ des littérateurs donc Aragon, Breton, Soupault, Élu Perret, et donc qui avait inventé un sort de style d'écriture qui était l'écriture automatique, qui essayait de rompre avec les barrières de la littérature habituelle et pour aller essayer d'atteindre l'inconscient. Et ce qui paraît simple pour l'écriture, dans la mesure où on manie le crayon rapidement, évidemment beaucoup plus difficile et différent pour la peinture parce qu'il y a des problèmes de technique, de séchage, d'élaboration et autres. Et donc les premiers, on le voit à travers les œuvres de Ernst, dès 23 et de Miro, ont essayé de trouver des moyens donc pour trouver cet équivalent plastique à l'écriture automatique et le font sous forme de grattage, sous forme de dessins très simplifiés, de taches de couleurs. Et Ernst essaye d'explorer finalement l'inconscient à travers les couches de couleurs et il gratte, il efface, etc. Il rentre dans la peinture et lui, Miro, qui à ce moment-là a une période très difficile dans un atelier un peu délabré, il observe les taches sur les murs de son atelier et à partir de là, il invente une sorte de jeu avec des lignes simples qu'il colorie, il leur donne des noms, des couleurs, ça devient une main, une tête, etc. Il s'invente tout un vocabulaire. Et donc ça, c'est un pan de ce mouvement. Il n'y a pas d'œuvre de maçon, l'œuvre est un peu plus tardive, celle qui est présentée un peu plus tardive, mais il participe à ce mouvement. Et en face, on a finalement, presque au même moment, l'élaboration d'images par Magritte ou par Pierrot, d'images qui sont des sortes d'illustrations avec une technique plus académique, plus ordinaire, qui sont la restitution de rêves de tout un monde personnel, onirique, et donc avec des juxtapositions d'éléments très différents. Chez Magritte, il y a des sortes de grelots métalliques accrochés à une falaise, il y a des sortes de bilboquets ou de bois tourné coloré, il y a des sortes de boîtes aussi avec des
c'est
yeux,
très enfin, curieux,
il y a
tout un ensemble ça
d'éléments,
s'appelle
le gouffre argenté parce que cette paroi est aussi métallique et puis il y a une sorte de découpe de bois et là à ce moment-là c'est un tableau aussi très tôt de Magritte, 26, il invente tout un vocabulaire nouveau qu'il va assembler différemment dans toute son œuvre. Et donc là on a finalement les deux aspects du surréalisme, à la fois l'équivalent plastique de l'écriture automatique et puis la fabrication d'images obéissant aux rêves ou restituant les rêves. Et puis après il y a une seconde génération qui apparaît après ses aînés, il y a Dominguez, il y a Hérold, il y a Matta, il y a Bellemare, Vifré d'Olam, etc., qui sont des artistes de toutes origines. Ils sont cubains, chiliens, ou allemands, ou espagnols, ou portugais, etc., et qui ont chacun tous un style différent, une approche différente, et c'est un peu ça l'esprit aussi du surréalisme, c'est-à-dire ce n'est pas un style en soi, mais c'est vraiment plus un état d'esprit. J'ai tenu à montrer, à exprimer aussi le caractère du groupe, à la fois par un cadavre exquis, réunissant Breton, Valentin Hugo, Tristan Tzara et Greta Knudsen.
Qui ont tous collaboré donc à ce tableau cadavre exquis.
Voilà,
oui.
C'est le fameux jeu du papier plié. Oui. Au départ, on écrit un mot, un verbe, ensuite on écrit un nom, ensuite un adjectif, ensuite un verbe, etc. Chacun le suivant complétant voilà. Sans voir. Et la première phrase a été le cadavre exquis boire le vin nouveau. Et donc, du coup, c'est devenu le cadavre exquis. Et ce jeu d'écriture est devenu un jeu de peinture, de dessin. Et donc, l'un des jeux favoris des surréalistes qui adoraient toutes les activités collectives. Et aussi, j'ai tenu à montrer des dessins en relation avec la littérature, il y a une étude de Miro pour un poème de Benjamin Perret, il y a aussi une étude de Matta pour illustrer Sade, et donc également des objets d'Ali avec un téléphone qui était un vrai téléphone, c'est un homard qui sert d'écouteurs et de téléphone, un téléphone blanc comme on les connaissait il y a encore quelques années, qui a réellement servi, il y en avait 10 commandés par son mécène James, qui aussi avait commandé un grand salon en forme de lèvres de Mae West et puis aussi une boîte de Cornell ou un petit objet de Mandrey. Tout ça montrant les différentes sources d'inspiration, les activités collectives des surréalistes.
Et puis il y a aussi de Jean Arp ou Hans Arp parce qu'il est d'origine allemande.
Oui, alors là aussi, je les ai placés à la fin, ils auraient pu être au début, mais en face finalement à la salle suivante qui concerne l'abstraction.
Ah, oui.
L'abstraction,
oui.
Pour
déjà,
montrer finalement que
c'est la transition vers
c'est une
l'abstraction,
transition, après. Mais aussi montrer que, alors qu'on aurait tendance à penser que les surréalistes détestent les abstraits, c'était souvent le cas où les abstraits avaient une terrible peur des surréalistes, ce qui était vrai aussi. En fait, on voit que quelqu'un comme Arp navigue de l'un à l'autre et que les relations ne sont pas si éloignées. Et puis aussi, j'ai tenu à montrer à la fin deux œuvres de Gorky et de Masson de l'époque de la guerre qui sont importantes parce que les surréalistes vont aller, comme beaucoup d'artistes, mais en grande majorité, ils vont aller aux États-Unis en 40-41, fuyant l'occupation. Et là-bas, ils vont se retrouver ensemble et ils vont avoir une influence majeure sur toute une génération de jeunes artistes qui s'appellent Pollock, qui s'appellent de Kooning, Basiot, Gorky, etc.
Plus tard.
C'est 41, oui. 42. Je présente une œuvre de Gorky qui est très proche de Miro, finalement. Si on la regarde un peu rapidement, on dirait c'est Miro. En fait, ces artistes étaient très marqués par Miro, par Masson. Et Breton s'est lié avec Gorky. Il a intégré dans sa publication le surréalisme et la peinture, a écrit une préface, etc. Et ce qui fait que toute la génération des années 40-50, 45-50 de l'après-guerre a été vraiment marquée par cet expressionnisme, par ce mouvement surréaliste. Masson était installé aux États-Unis, a eu une grande influence, etc.
Oui, mais avant, c'était Paris qui était le centre, si
oui,
je comprends bien.
Oui, jusqu'aux années 40, c'était Paris et tous les artistes étaient là.
Autour
venant
donc d'André Breton.
Autour de Breton, venant Belle-Mère, venant d'Allemagne, Mata du Chili, etc.
Et donc, les premiers, on peut les considérer, par exemple, vous diriez Max Ernst, c'était Miro, aurait
oui,
été
c'était
les premiers.
Oui, c'était les premiers, avec Masson, c'était Masson. Ça, c'était vraiment au tout début. Ernst venant, lui, d'Allemagne, venant du mouvement Dada. Il y a aussi, Arp faisait partie aussi du mouvement Dada. Oui. Il y a eu toute une période entre la naissance de Dada à Zurich en 1916 et on va dire 1924, le manifeste du surréalisme.
Voilà.
Il y a eu toute une période d'échange, de relations avec des groupes Dada à Francfort, avec Ernst, à Berlin, avec des gens comme Richter, Haussmann, et puis à Zurich, et les uns allant, et puis Breton en relation avec Dada aussi.
C'est assez impressionnant quand on pense maintenant ce foisonnement de mouvements et de tendances des esprits et des artistes. C'est absolument impressionnant aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que vraiment, le monde entier était en bouleversement. Et
se retrouver à Paris.
Oui, et se retrouver à Paris, mais quand même venant du monde entier, comme vous venez de le dire, très bien, et laisser des œuvres absolument somptueuses. Écoutez, avant de reprendre notre visite, je vous propose une seconde pause musicale maintenant pour prolonger ce dépaysement surréaliste. Et du Schönberg, toujours. Notre visite reprend au musée du Luxembourg en compagnie d'André Cariou, commissaire de l'exposition de Miro à Warhol, une sélection d'œuvres choisies parmi la collection Berardo de Lisbonne. Et c'est une collection essentiellement composée d'œuvres modernes. André Cariou, la troisième partie présente les différents courants de l'abstraction géométrique. On quitte le surréalisme plus ou moins, enfin on fait donc une transition, mais enfin on passe à l'abstraction géométrique principalement en Europe entre les deux guerres, n'est-ce pas? Et puis nous y trouvons forcément un Piet Mondrian, mais pas de Malevitch, par exemple.
En fait, Berardo donc, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas évoquer les années 50, 60 sans revenir en arrière. Et ce sont finalement les opportunités du marché qui ont fait qu'il a pu acheter un somptueux Mondrian de 1923, et l'un des plus beaux. Il n'a pas pu acheter de Kandinsky, ni de Malevitch. Kandinsky, c'est très cher. Berardo, même s'il a acheté un tableau tous les 4 jours, n'a pas des moyens considérables.
Infini quand même, oui.
Infini, contrairement à d'autres.
En dépit de la mine d'or.
Contrairement à d'autres collectionneurs. Et puis, je pense que le problème ne se posait pas comme ça. C'est-à-dire, il n'a pas voulu à tout prix posséder un Malevitch. Par contre, il a acheté 3 tableaux de Popova, qui était élève de Malevitch, qui était un peintre très sérieux. Popova était un peintre russe qui est venu à Paris, qui est venu en Italie.
C'est une femme.
Il est venu qui a été marqué par le futurisme et par le cubisme et qui a inventé une sorte de ce qu'on appelle le cubo-futurisme et qui a participé au développement de l'abstraction et de tout le constructivisme russe. Et de la même façon, il a acheté des Van Tongerlo très tôt, des années de construction du mouvement qu'on appelle le style, le style, le néoplasticisme de Mondrian. Il a acheté aussi Buchheister, qui était un peintre abstrait de Hanovre, qui travaille d'après des collages avec des séries, etc. Et donc finalement, ça sert de base pour ensuite une évocation, on va dire essentiellement aussi parisienne. On s'aperçoit qu'à partir de 1918 et la réinstallation de Mondrian en est la preuve. On oublie souvent que Mondrian a vécu 20 ans à Paris entre 18 et 38. Tout le monde se retrouvait là et il y a plusieurs mouvements et il suffit de voir les nationalités ou les origines. Ben Nicholson qui est anglais, Servranckx qui est suisse.
Yeah. Et un Jean Gorin,
un tableau très beau, qui est vraiment qui s'est pris de passion pour l'œuvre de Mondrian, qu'il a découvert à Paris, qui est devenu certainement le plus grand disciple en France, certainement et peut-être de manière absolue. Et le tableau que l'on présente est un tableau d'autant plus intéressant que Gorin va aller plus loin, qu'on va dire, que son maître, entre guillemets, en travaillant sur les reliefs et les creux, c'est-à-dire le rouge est en creux et le noir est en relief, et il va aller, c'est le premier tableau, et il va aller plus loin ensuite en faisant vraiment des structures qui vont devenir des sculptures, ensuite qui vont devenir des maquettes d'habitation, des maquettes de mobilier, ensuite des maquettes d'habitation, ensuite des maquettes d'urbanisme, de ville, etc. J'ai essayé de dévoquer cela par une petite sculpture de Van Tongerlo, mais cela montre bien que cet art géométrique abstrait des années 20 en fait va devenir notre mode de vie, notre cadre de vie, le mobilier, le design, l'architecture, tout va venir de là. Et on s'aperçoit que c'est à Paris que se retrouvent les artistes qui se regroupent. Il y a plusieurs cercles, groupes, cercles et carrés, l'art concret, le groupe de l'art concret, et puis surtout abstraction-création avec des artistes comme Elion et Van Tongerlo et d'autres. Et donc, l'exposition montre ce foisonnement, ces stratégies aussi différentes. Certains, dans les années 30, commencent à s'épuiser dans cette démarche abstraite si difficile. Des gens comme aux enfants ou comme Elion reviennent tout doucement à la figuration tout en ayant des tableaux très simplifiés. Delaunay, qui a été sans doute le premier peintre abstrait vers 1906-1907, qui était revenu ensuite à la figuration pour des raisons strictement alimentaires, lui repart vers l'abstraction parce qu'il reçoit des commandes décoratives. On lui demande de travailler sur des extérieurs, il travaille sur le ciment, sur le plâtre, sur des reliefs et autres. Et la peinture que nous présentons date de cette période. Les cercles chromatiques sont totalement abstraits. Et donc on voit que cela bouge également. Ce n'est pas simplement des théories qui s'appliquent. Que ne sont pas simplement des disciples de Malevitch ou de Kandinsky ou de Mondrian, mais c'est tout un foisonnement qui se fait à Paris.
Oui, et puis peut-être aussi un mot de Jean Elion, parce qu'il y a un tableau qui est vraiment superbe.
Alors c'est un tableau, Jean Elion est un peintre très important, mais qui déroute beaucoup les amateurs, parce qu'il est pratiquement l'un des seuls à être devenu totalement abstrait, et puis ensuite à avoir renoncé à l'abstraction pour peindre des débarquements de caisses de homard à Belle-Île, ou des marchands de pain dans la rue, ou des magasins de légumes et autres. Et le tableau que j'ai choisi est intéressant, parce qu'on commence à percevoir des mises en volume, c'est-à-dire les plans ne sont plus simplement des aplats coloré, mais on sent qu'il y a des effets un peu d'ombre, de dégradé, ce qui leur donne une forme de volume.
Deux personnages.
Ce sont des personnages qui commencent à prendre forme et ce qui au départ est simplement une juxtaposition d'aplats colorés va en fait devenir des vrais volumes, et ils vont correspondre finalement à des hommes, à la figuration humaine, et il va refaire le cheminement à l'inverse, c'est-à-dire partir de taches de couleur pour aller vers la représentation de l'homme.
Bon, alors quittons donc avec regret les abstraits pour passer au nouveau réalisme français des années 60 et au pop art américain. Alors évidemment, il y a Yves Klein, Rotel, qui est avec ses affiches lacérées, Villeglay. Je pense qu'il y avait une exposition il n'y a pas très longtemps.
Il y en a actuellement au Centre Pompidou, une très grande rétrospective. Mmh.
Et puis évidemment, Andy Warhol.
Alors, la confrontation est souvent celle que l'on retient le plus parce qu'elle paraît évidente. Les Américains ont inventé un nouveau genre qu'on appelle le pop art, qui n'existe pas en Europe. Et on le confronte souvent avec le nouveau réalisme de ce groupement d'artistes né en 1960 et lancé par le critique Pierre Restany. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, mais c'est plus au niveau de, on va dire, des textes, c'est que là, ce sont deux approches très différentes. Il y a une génération qui part de la société de consommation, des déchets, de ce que des images fabriquées, les images qui se retrouvent souvent lacérées, déchirées sur les panneaux d'affichage avant d'être détrempées par la pluie, avant d'être en partie décollées, avant d'être recouvertes de nouveau. Il y a aussi ce Marie Nevelson qui récupère des morceaux de bois et qui fait des sculptures parce qu'avec des petits morceaux qu'elle récupère comme cela, elle réutilise des choses qu'elle trouve dans une usine de menuiserie ou autre. Et puis il y a Tinguely qui commence aussi à récupérer des morceaux de ferraille. Ça va être aussi César qui travaille chez un ferrailleur ailleurs et autres. Et donc, c'est toute une génération qui va partir des déchets. C'est aux États-Unis aussi Rauschenberg ou Jones ou Pinholz. Ça, c'est tout un pan. Et finalement, qui vont être souvent très contestataires, très corrosifs, très libertaires, très, au sens très, très ironiques, mais aussi très, très engagés. La petite sculpture de Tinguely qui fait du bruit tous les quelques minutes, là, quelques secondes, qui fait un bruit infernal tout à coup, est en fait, elle porte un double nom, c'est Indian Chief. Elle appartient à une série qu'on a une statue Balouba. Et en fait, c'est quoi Balouba? C'est le nom de l'ethnie de Patrice Lumumba, qui était le premier ministre de la jeune République du Congo et qui a été élu démocratiquement et assassiné presque aussitôt. Et en fait, par cela, Tinguely, donc la statue est inerte, elle ne fait pas de bruit. Tout d'un coup, elle se réveille, elle danse, elle fait beaucoup de bruit, il y a une plume, etc. Et puis après, elle retombe dans le silence et veut montrer en fait que cette pauvre Afrique, elle est confrontée à des longs moments de dictature ou de colonialisme. Et tout d'un coup, il y a une sorte de moment de fête, de joie qui est la démocratie. Et puis ensuite, il y a un long moment de dictature et puis encore une sorte de petit épisode de la démocratie et malheureusement on le voit encore, c'est comme ça que ça se passe. On pourrait simplement s'amuser, se dire ils récupèrent, etc. les années 60, mais c'est plus, souvent plus profond que ça.
Oui.
L'affiche de Villeglay évoque la mort de Maurice Thorez du Parti communiste, des manifestations et autres. Rotella met en cause tout le système de la publicité en faisant émerger une sorte de petit monstre de tête au milieu, au milieu d'une image très polissée qui est celle d'une réclame pour un produit à vaisselle, etc.
Oui. Et puis l'autre, c'est un Calabret.
Oui.
Il vient de loin.
Il vient de loin. Et puis à côté de ça, il y a le pop art. Alors on a les marchands new-yorkais ont voulu les associer, mais on s'aperçoit que ce sont vraiment deux mondes. Les Américains viennent souvent du monde de la publicité ou de la communication, comme Liechtenstein, comme Warhol, comme Indiana et autres, et souvent utilisent les techniques, d'ailleurs la sérigraphie, la répétition, les agrandissements et autres. Et ce sont des images souvent qui sont, on va dire, au service de sans contestation. Alors c'est plus ambigu que cela. C'est-à-dire la boîte de conserve de Warhol, la fameuse soupe Campbell, c'est l'artiste élève finalement une boîte de conserve au titre de portrait, mais en même temps c'est une sorte de portrait presque de grande taille, et donc il se moque finalement de la société de consommation. En même temps, en élaborant des centaines et des centaines d'images de ce genre, en les faisant varier, il participe à cette société de consommation. Et le tableau qui a servi d'affiche, le grand tableau de Wesselmann, le grand nu américain, a cette ambiguïté, c'est-à-dire c'est un couple très glamour, c'est en fait une photographie de magazine qui est collée sur le tableau, dans un intérieur assez chic, avec derrière un grand tableau de Matisse, mais que le peintre lui-même a reproduit. Et puis devant, donc, il y a une sorte de, on va dire, de sexualité un peu lisse, polissée, qui apparaît. Et puis, émanant de ce couple, donc dans un intérieur un peu bourgeois. Et puis devant, il y a un nu qui ressemble un peu à un nu à Modigliani. Et puis, il y a un tissu qui est vrai, c'est-à-dire ce nu repose sur une sorte de couverture ou de plaid de tissu blanc, d'une sorte de fourrure blanche. Et c'est vraiment de la fourrure. Et donc, entre cette fourrure réelle, entre l'image collée, entre ce qui est peint, une peinture qui est repeinte, etc., on ne sait plus très bien ce qui est vrai et c'est très dérangeant finalement. Le visiteur est un peu perturbé et puis finalement ce grand nu indispose un peu ce couple tellement stéréotypé, tellement glamour qui est celui des images de magazines. Finalement, je ne dis pas que c'est subversif, mais il y a une approche qui n'est pas simplement de la production d'images à acheter.
Oui, d'ailleurs, je signale à nos internautes que ce tableau que vous venez de décrire est évidemment presque emblématique de la collection et de l'exposition à Paris parce qu'il figure sur l'affiche et sur le catalogue. parce qu'il représente, si j'ai bien compris, en même temps cette notion de confrontation que vous avez évoquée tout à l'heure, et aussi le trouble de ces avant-gardes qui se suivaient. Et puis, il y a une dernière salle qui offre alors, un peu comme la première salle, disons une confrontation ou un panorama de l'après-guerre avec les différentes recherches post-45, donc autour de l'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique aussi. D'ailleurs, quel lien peut-on établir entre ces deux mouvements qui sont apparemment distincts, mais pour ne éventuellement opposer aussi l'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique?
Alors, l'abstraction lyrique en Europe après 45 va prendre la forme du cinétisme, de l'art visuel, et j'ai tenu à présenter Vasarely, qui est pourtant un peu démodé. C'est une peinture qui a eu beaucoup tout l'illusionnisme optique, les effets visuels. Ça a été à la mode dans les années 60. On dit, il suffit de penser à la décoration de la gare Montparnasse, par exemple, et tout ça, c'est un peu démodé maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que le Bauhaus, qui est un institut de design, qui s'était en Allemagne, à Weimar, à Dessau, et puis ensuite à Berlin, a été fermé par les nazis en 1933, considéré comme dégénéré, et les professeurs sont partis aux États-Unis. Joseph Albers, Molly Nagy, et ont enseigné. Il y a tout
sauf
un.
Sauf Paul Klee qui est allé ensuite.
Mais Molly Nagy et Albers sont devenus deux enseignants importants, l'un à Chicago et l'autre à Harvard, et ont formé toute une génération. Et on retrouve dans la section précédente, il y avait un tableau Molly Nagy de l'époque américaine, et puis on retrouve Joseph Albers qui poursuit ses recherches aux États-Unis, et il a comme élève Frank Stella. Il influence toute une génération, et ses peintres vont poursuivre plus qu'en Europe, vont poursuivre ses recherches sur l'abstraction, et ils vont arriver finalement, comme Ad Reinhardt qui peint une sorte de croix noire sur fond noir, ils vont arriver finalement à un art totalement minimal, c'est-à-dire ils reviennent finalement à ce que faisait Malevitch au début du siècle. Et puis de l'autre côté, il y a un mouvement qui est aussi très original, qui vient des États-Unis. C'est finalement la première fois dans l'histoire de l'art que les Américains apportent quelque chose. C'est-à-dire ces peintres qui avaient été si marqués par Miro et par Masson quand les surréalistes étaient là, présents aux États-Unis. Il y a des gens comme Pollock, comme Basiot, comme de Kooning, comme Gorky, etc. vont inventer ce qu'on va appeler l'expressionnisme abstrait de l'école de New York. Et finalement, en Europe, il y aura une sorte de transmission grâce à des peintres comme Mathieu. Ça va devenir l'abstraction lyrique. Et j'ai choisi deux peintures de Nord-Américains installés en France, qui étaient Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel, américaine et québécois.
Riopel, québécois.
Et qui vont tous les deux poursuivre cette peinture qui est faite d'énergie, qui est faite de mouvement. C'est-à-dire, c'est une peinture très expressionniste et très extériorisée. On pense à ce que faisait Pollock, ces fameux drippings, quand il peignait avec son corps sur des peintures placées par terre. Il trempait des bâtons dans des seaux de peinture et il balançait. Et finalement, les giclures, les éclaboussures faisaient partie de l'œuvre elle-même. Et c'était l'expression vraiment de toute une énergie américaine. C'est très, très nouveau par rapport à la France. Et puis, à côté de ça, il y a une chose qui est strictement européenne, qui n'apparaît nulle part. Une sorte de, on va dire, d'îlot un peu. C'est ce qu'on appelle la non-figuration. C'est une chose qui n'apparaît pas. Ça vient de peintres qui ont résisté à leur manière à l'occupation. Pendant la guerre, des gens comme Bazaine, comme Talcoat, comme Lemoyle, Manessier, Hartung, Saint-Gier, etc., Poliakoff et autres. Ils refusaient le terme d'abstrait.
Poliakoff, il n'est pas plus abstrait que Poliakoff.
Oui, mais ils refusent le terme abstrait parce que ce sont des gens qui tirent leur énergie ou leur inspiration toujours de la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sur le motif, mais ils sont des gens très sensibles à ces effets du froid, du vent, de la neige, de la pluie, etc. Et qui ont inventé une sorte de style. Évidemment, quand on regarde ce genre de peinture, on pense que c'est totalement abstrait. Il y a un Vieira da Silva très beau de 48, il y a un Soulages très tôt de 53. Évidemment, on pense à l'abstraction. Mais c'est une sorte d'originalité qu'on ne retrouve pas aux États-Unis.
Et puis l'exposition se termine sur une œuvre vraiment étonnante de Julien Schnabel, un portrait de Jacqueline composé de 1000 morceaux d'assiettes.
Alors je voulais terminer par d'abord une œuvre qui soit postérieure, c'est-à-dire le principe, on va dire, du musée de Luxembourg, c'est que ça couvre le XXe siècle jusqu'aux années 60, donc je ne pouvais pas aller plus loin, et puis il y avait des problèmes de place aussi, mais je me suis autorisé à prendre une œuvre pour montrer que la collection Bérardeau continue au-delà des années 60, et puis j'ai choisi un portrait de Schnabel pour différentes raisons. La première, pour montrer que finalement la figuration n'est pas morte, alors qu'on croit qu'elle est morte avec cette abstraction géométrique, cette abstraction lyrique, cet expressionnisme abstrait. abstrait, cette nouvelle figuration, on croit que c'est fini. En fait, c'est pas fini du tout et le portrait continuera toujours. Comme je le disais, le roi continuera à faire des nus et il y aura toujours des peintres à faire des natures mortes ou à faire d'autres thèmes éternels. Et j'ai pris Schnabel parce que c'est une peinture très, très violente. C'est la nouvelle génération, on appelle ça le bad painting. C'est des gens comme Basquiat, comme Kaysaring, aussi les gens qui font des graffitis. C'est une expression donc très agressive de notre réalité quotidienne et le peintre colle sur un panneau de bois des tas de fragments d'assiettes cassées, des tasses, des soucoupes et autres. Et finalement, et il peint ça très grossièrement. Quand on regarde de très près, on voit une sorte de désolation, de champ de mine. Et ensuite, quand on s'écarte petit à petit, on voit apparaître un superbe visage. Et il s'agit là de la femme de Schnabel. J'ai confronté ce visage peint avec des portraits, des photographies. Et en fait, on retrouve vraiment les traits. Au fur et à mesure, on s'écarte et tout doucement, ce qui est grossier, affreux, agressif et autres laisse la place à un visage très, très beau. Et finalement, je me disais, on n'est pas très loin de la démarche de Picasso en 1909, quand il a commencé en 1907, quand il a commencé avec les Demoiselles d'Avignon à rompre avec ce système. Finalement, 75 ans après, les problèmes sont les mêmes, exactement les mêmes. C'est le problème de la figuration, mais simplement l'expression est différente. Et je crois qu'un visiteur qui verrait comme ça simplement un Schnabel, il serait peut-être choqué, mais qu'on le voit après un tel processus qui a traversé tout le XXe siècle, on se dit finalement, ça ne fait que continuer, encore la peinture a de beaux jours devant elle.
Oui, en tout cas, ici avec Schnabel, se termine l'exposition, mais pas notre entretien, et je vous propose une dernière petite pause musicale avant de vous poser quelques questions d'ordre général, et du Schönberg, toujours. Donc, après cette sélection d'œuvres et de certains chefs-d'œuvre dont nous avons déjà souligné vraiment l'exceptionnelle qualité, on peut toutefois noter des absents de marque. On ne voit pas vraiment de cubiste ou l'art brut aussi, ça m'a frappé, ça manque. Ou l'hyperréalisme américain aussi, parce que bon, on a quelques Américains bien sûr, surtout dans la dernière salle, dans cette exposition. Mais l'hyperréalisme n'est pas vraiment représenté, me semble-t-il.
Pour le cubisme, en fait, cette collection s'est constituée finalement presque à reculons, c'est-à-dire au départ. Berardo voulait simplement traiter de l'après-guerre, après 45. Finalement, il est allé de plus en plus loin en amont. Oui. Mais vraiment, l'immense majorité des œuvres de cette période-là, c'est les années 20-40, à l'entre-deux-guerres. Et il y a de très, très rares œuvres qui se comptent sur les doigts d'une main avant. Donc le Picasso de 1909, ce n'est pas du tout son souhait. C'était pas du tout. Alors il manque d'autres, des vrais cubistes. Il manque Braque aussi. Et il y a. En fait, on s'aperçoit que pour cette période de l'entre-deux-guerres, il y a vraiment deux courants. Il y a l'abstraction et le surréalisme, et il manque toute la figuration de l'école de Paris, il manque vraiment beaucoup de monde. Mais c'est un problème d'opportunité, et puis ce sont les aléas finalement d'une collection. Alors pour l'hyperréalisme, en fait il y a quelques tableaux dans la collection, et c'est par là vraiment par manque de place que je n'ai pas voulu me y renoncer. Et autrement, alors évidemment quand on emprunte un tel ensemble, même s'il est considérable à Lisbonne, il y a des œuvres qui sont déjà prévues en prêt, il y a d'autres expositions qui sont projetées. Donc il y a deux Dubuffet très beaux. Il y en avait un qui me plaisait beaucoup, un paysage de Dubuffet que je n'ai pas pu emprunter. Il y avait une nature morte de Morandi également. Il y avait une peinture cubiste de Torres Garcia. Il y a, parmi mes regrets, il y avait aussi un Martial Res, donc un nouveau réaliste français. Enfin, bon, quelques œuvres qui montrent aussi qu'il ne faut surtout pas penser à une histoire de l'art idéale, même si cette collection recouvre presque tous les courants du XXe siècle. En fait, il faut se dire qu'il y a très agréable de voir des œuvres qui souvent donc venaient de collections privées, ont été très peu connues, très peu montrées. C'est la première fois qu'on les voit à Paris. Seulement quelques-unes ont été montrées auparavant à Lyon il y a 8 ans, seulement quelques-unes. Et je crois qu'il faut se dire qu'on est heureux de voir un très beau Magritte, on est heureux de voir des Ernst et autres.
Et ce Miro aussi, splendide. Et donc
tant pis pour un Kandinsky qui n'existe pas, ni un Malevitch, mais ça permet de voir.
Oui, mais on est devenu exigeant. Qu'est-ce que vous voulez à force de voir de belles expositions à travers le monde. monde.
Il y a aussi des découvertes comme ce Pierre Roy, comme ce Marcel Kahn dont on ne parle pas assez, ce Belge qui s'appelle Victor Servranckx, qui est un peintre abstrait très intéressant, ce Ben Nicholson qui est le plus grand peintre abstrait anglais aussi dont on ne parle pas assez en France,
oui,
Max Bill, le peintre suisse, etc. etc. Donc il faut privilégier
ce portugais
côté
que nous avons évoqué
voilà.
tout à l'heure.
Et puis aussi d'autres portugais, évidemment Vieira da Silva est là, mais aussi Lourdes Castro qui est une femme qui a été très soutenue par les nouveaux réalistes et qui peint des œuvres, des sortes d'ombres projetées tout à fait aussi intéressantes et qui avait longtemps vécu aussi à Paris.
Alors vous avez parlé dans le catalogue donc de trois démarches fondamentales dans cette évolution de l'avant-garde. Donc ces trois démarches fondamentales qui seraient la figuration, le surréalisme et l'abstraction. Alors est-ce qu'elles ne traduisent pas chacune à sa manière une forme de révolte, un mal de vivre, une recherche angoissée? Et n'y aurait-il pas un dénominateur commun, un croisement entre ces différents courants novateurs?
À de nombreuses reprises, on peut faire des relations, c'est-à-dire on peut, j'ai dit Harpe, est-il vraiment abstrait ou surréaliste? Est-ce que De Staël est un peintre abstrait ou un peintre figuratif et ainsi de suite? Est-ce que le roi, quand il peint un nu, il est simplement figuratif ou est-ce qu'il est abstrait? Je pense que ce sont des séparations évidemment qui sont fondamentales et qu'on utilise comme des sortes d'outils de compréhension, mais on s'aperçoit finalement que l'artiste est beaucoup plus à la fois plus simple et plus compliqué et souvent l'artiste le plus abstrait, théoricien, va en même temps crayonner sur ses carnets des vues de paysages, des personnages, des natures mortes et autres. Ben Nicholson, lorsqu'il présente tout un jeu de carrés juxtaposés, en fait, il dit que c'est une nature morte vue du ciel. Enfin bon, on s'aperçoit que, en fait, ils sont pas dupes, ni les uns ni les autres. Simplement, quand Masson, quand Miro et autres font des peintures, finalement, qui sont aussi abstraites, ça ne représente pas sont des signes dans l'espace et autres. Simplement, on va les qualifier de surréalistes, peu de figuratives et de non figuratives pour la commodité du classique. Et c'est l'esprit un peu aussi de l'histoire de l'art qui nous oblige à classer les choses comme ça. Mais en fait, l'artiste est beaucoup plus indépendant. On a deux dessins de Gonzalez qui sont des études de sculpture. Là aussi, est-ce qu'il est surréaliste ou est-ce qu'il est figuratif ou abstrait? C'est très difficile. Et ainsi de suite, on s'aperçoit que les peintres, même lorsqu'ils vont le plus loin, par exemple Fontana, j'ai choisi ce tableau presque à la fin parce qu'il montre aussi tout un courant qui dit dans les années 60, la peinture est morte. C'est la fin de la peinture. C'est un peintre qui prend un cutter ou une lame de rasoir ou un couteau et qui se contente simplement de lacérer une œuvre et de faire un trou, une sorte de trou béant, etc. Mais il attaque, c'est un geste radical, une violence folle, il attaque la base même de la peinture, c'est la matière même, comme d'autres vont le faire en détruisant les châssis, en présentant des toiles volantes, en coupant les toiles, etc. Lui, c'est le geste le plus pur, un seul coup de... Et finalement, ça, c'est un geste qui va aller vers l'art conceptuel, parce que c'est le geste qui compte, c'est pas le résultat. Mais en même temps, quand on voit l'œuvre derrière cette fente, il a mis un petit tissu noir pour ne pas que l'œil aille plus loin. Et évidemment, il y a une connotation sexuelle, il y a un travail, il y a une vocation sexuelle.
Il n'y a pas que la conception.
Et donc, le peintre, évidemment, le sait très bien. Et donc, il y a une sorte de mystère du monde, un peu. Je dis pas que c'est courbé, mais c'est quand même un peu ça. Donc, c'est pas l'origine du monde, mais on n'est pas très loin. Et donc, ça montre que c'est beaucoup plus compliqué, que les peintres ont tous, même en faisant les choses les plus intellectuelles, Mondrian, quoi qu'il arrive, peignant ses verticales et ses horizontales, il ne fait que prolonger un travail sur les dunes, sur les canaux, sur les moulins, sur les haies de peupliers dans son pays de Hollande. Et pendant 40 ans, il a été peintre figuratif et il a simplifié au fur et à mesure. Et le contenu s'est dématérialisé au fur et à mesure, donc a disparu pour laisser la place simplement à quelques lignes et autres. Et donc il va jusqu'au bout. C'est finalement à travers ces parcours des artistes, de leurs rencontres, des contacts, de leur vie même, qu'on se rend compte que c'est ça le dénominateur commun, finalement.
Oui,
c'est la peinture,
oui.
Et les artistes sont tous confrontés, quel que soit leur classement, leur groupe et autres, leur regroupement, ils sont confrontés toujours à la notion de représentation, c'est-à-dire que représenter pour exister et pour vivre, finalement.
Et à chaque fois, une sorte de révolution artistique dans leur tête qui s'exprime donc sous les différentes formes entre le surréalisme, l'abstraction, etc. Mais comme une révolution des esprits à chaque fois, j'ai l'impression.
Oui, à chaque fois, il y a une remise en cause. Et puis,
remise en cause, donc révolution plus ou moins, du passé.
Et puis en même temps, ce sont des révolutions au niveau du comportement. On voit souvent qu'il y a des engagements politiques. Ces peintres qui ont tous été très marqués par la Seconde Guerre mondiale. Certains ont été obligés de s'exiler, d'autres ont été vraiment chassés de leur pays.
Ah oui, c'est
certains ont été en prison, d'autres sont sont morts, certains ont combattu, d'autres moins que ça. Et donc, on s'aperçoit que certains ont pris, ont trouvé des bases théoriques dans le manifeste du surréalisme, d'autres dans des traités de constructivisme, de l'abstraction. Et donc, mais à chaque fois, il y a une sorte de progression, même si c'est toujours la même problématique. Il y a un engagement profond. Sont des vies souvent épouvantables. On essaye de lire un peu, de mettre en perspective ces artistes. Souvent, ils se sont battus contre l'adversité. Très rares sont ceux qui ont eu un succès assez vite. En général, ils ont eu des vies de misère, d'isolement. Il y a certaines vies, comme celle, mettons, d'Archil Gorky, qui sont à pleurer tellement c'est dramatique. Et donc, et ces gens-là, malgré l'adversité, continuent à peindre quoi qu'il arrive. Et donc, c'est, je trouve, ce sont eux, ces artistes, qui sont le dénominateur commun finalement et de ce XXe siècle. C'est-à-dire, il faut beaucoup de courage.
Voilà, c'est quand même très très caractéristique pour le XXe siècle.
Il faut beaucoup de courage, parce que vous me direz au XIXe siècle, c'était aussi difficile parce qu'il y avait là un système très fermé, très corseté, celui de l'Académie en particulier, avec le salon unique, avec les récompenses, le prix de Rome, etc. Et c'était difficile d'être en marge ou quasiment impossible. Mais c'est pareil pour le XXe siècle parce que le monde est très dur et d'autres.
Il y avait surtout les deux grandes guerres quand même qui ont marqué tous les esprits et particulièrement les esprits des artistes.
Et on s'aperçoit que pour les artistes, cela veut dire que tout le système des expositions, des marchands, des collectionneurs explosent ou cessent d'exister ou se transforment et donc ils sont les premiers atteints, ils connaissent des grandes, grandes difficultés.
Oui. Est-ce que je peux oser vous poser une grande question ? Aujourd'hui, où en est l'art plastique, j'entends ?
J'ai choisi ce tableau de Schnabel pour dire que ça continue, quoi. C'est-à-dire que ça continue et je pense qu'il ne faut
mais
pas
sous
avoir...
sous quelle forme aujourd'hui ?
Sous des formes évidemment totalement différentes. Il ne faut jamais comparer. La peinture continue en tant que telle. Il y a encore des peintres qui font de la peinture avec des mêmes matériaux traditionnels, hein, du tube, de la toile et autres. Il y en a et ça continue et il y a d'autres qui trouvent des nouvelles techniques, des nouveaux moyens, des nouvelles... Je pense que ça... Il faut pas se bloquer en disant que c'est un prolongement, que c'est un progrès, un aboutissement et autres. Simplement, ça, c'est différent.
Non, mais y a-t-il des
différent.
Courants représentatifs aujourd'hui ? Après la Transavanguardia que je connais d'Italie, je ne suis pas d'autres mouvements qui seraient vraiment importants.
Ben, ce ne sont pas tellement des courants au sens où ce sont vraiment des individualités. C'est-à-dire
que
chaque artiste puise dans, comment dire, aussi dans le monde de la publicité, de la consommation, du spectacle et autres. Et ce sont des démarches qui sont très... Mais avec toujours comme un fond de goût pour les formes plastiques, quelles qu'elles soient. Quand chez Jeff Koons, il n'y a pas simplement la dérision aussi d'un monde ou l'apologie d'un monde du spectacle, mais aussi il y a des formes colorées, il y a une recherche et ainsi de suite. Et donc, je pense que notre monde est très, très perturbé, va dans tous les sens et les plasticiens actuels montrent ou correspondent aussi à cela. Mais c'est un autre domaine et Berardo lui achète beaucoup de jeunes artistes d'installation. Il fait beaucoup confiance à toute cette génération et puis finalement, comme il ne revend pas, il se dit aussi que bon, on verra. C'est très optimiste sa collection finalement. C'est quelqu'un qui... je pense qu'il veut laisser une revanche un peu de l'histoire. Il veut laisser un nom, mais en même temps, il aurait pu laisser un nom en achetant le plus grand paquebot du monde ou autre chose. Enfin, il est paquebot privé. Mais c'est, je pense, de sa part, c'est très optimiste. Je pense qu'il fait beaucoup confiance aux jeunes. Il fait confiance à ses compatriotes. Il est cette collection qu'il offre aux autres est un signe de, je trouve, très 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 positif.
Donc, il continue à faire des acquisitions,
à
grandir sa collection.
Oui, souvent de jeunes artistes. Oui.
Et ce que nous n'avons pas pu voir au Musée du Luxembourg, on peut toujours aller à Lisbonne et voir donc toute la collection
au Centre culturel
d'une
de Belém.
Une centaine d'œuvres, c'est ça ?
Voilà, exactement.
À Lisbonne. En tout cas, André Cariou, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu de votre belle Bretagne jusqu'à nos studios de Canal Académie. Et merci de nous avoir guidés donc, à travers les multiples facettes et palettes de la modernité. Et la collection Berardo de Lisbonne en propose donc vraiment un riche exemple dont vous avez su marquer l'importance. Je rappelle à nos auditeurs l'exposition de Miró à Warhol, la collection Bérardot à Paris au Musée du Luxembourg du 16 octobre 2008 au 22 février 2009. Et à cette occasion est paru aussi un remarquable catalogue publié par Skira Flammarion avec une reproduction pleine page de chaque œuvre et une biographie et une analyse critique qui les accompagne. C'est vous qui en êtes l'auteur,
oui, c'est
André
moi. Cario. Oui, oui.
Félicitations. Merci beaucoup.
Merci
bientôt.
De votre invitation.
Au revoir.